Bonjour, je suis Camille Faure et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Cazoo, le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Cazoo, c'est quoi? C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. heykazoo.com. Allez-y, c'est parti. Bonjour Juliette, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. J'ai vraiment, j'ai le plaisir d'être cliente de la tournée depuis que vous avez ouvert les livraisons vers chez moi. J'étais en mode en attente. Je vous suivais sur les réseaux et sur tous les moyens de savoir. Donc j'étais trop contente de enfin pouvoir avoir accès à votre service. Donc voilà, c'est en tant que cliente et en tant que hôte de ce podcast que je vais te poser des questions aujourd'hui. Mais pour commencer, ce que je te propose du coup, c'est de te présenter toi et puis de nous présenter la tournée.
Ouais, bonjour, donc moi c'est Juliette, je suis cofondatrice de la tournée, j'ai 31 ans, donc on a lancé la tournée il y a 2 ans, avant j'avais un parcours, j'ai fait du conseil en stratégie, j'étais principalement basée en Asie et j'ai aidé des boîtes européennes dans leur stratégie de développement, donc c'était trop chouette, j'ai découvert plein de pays, plein de projets super intéressants et au bout d'un moment vraiment j'ai eu envie d'avoir de l'impact comme je pense beaucoup de gens dans la pré-trentaine qui se rendent compte qu'en fait on passe beaucoup de temps de nos journées au travail et que donc on a envie que ce soit pour quelque chose qui fasse du sens et donc je suis rentrée en France et j'ai commencé à réfléchir à des projets à impact environnemental et je me suis très vite intéressée au sujet des déchets. Il y a eu la loi AGEC en 2020 qui a mis un cap ambitieux qui est la sortie des emballages à usage unique d'ici 2040. Donc hyper ambitieux, enfin la loi la plus ambitieuse en Europe, mais derrière pas vraiment de moyens concrets pour y arriver. Et donc ça a quand même réveillé beaucoup l'écosystème de la consigne avec le constat que pour les emballages du quotidien, c'est complètement stupide d'acheter un produit, un emballage en plastique qui va être jeté après une seule utilisation. Donc la consigne, c'est la meilleure alternative qu'on ait aujourd'hui pour réduire collectivement nos déchets. Mais pas de solution pratique pour le consommateur, puisque finalement, aller dans une épicerie vrac ou dans un supermarché pour rendre des contenants, ça reste une contrainte pour beaucoup de gens. Et que donc la livraison à domicile, elle permet de faciliter la vie des consommateurs. À chaque fois que vous êtes livré, vous rendez vos contenants consignés au livreur en échange d'une consigne pour qu'ils soient lavés et réutilisés au lieu d'être jetés. Finalement, c'est pas plus compliqué pour le client que de sortir ses poubelles. Donc vraiment le constat que c'était le meilleur modèle pour généraliser la consigne. Il y avait aussi des acteurs au Royaume-Uni, en Allemagne, qui s'étaient lancés sur ce type de modèle et qui fonctionnaient très bien. Et donc, avec mon associé Camille, fin 2021, on s'est lancé dans l'aventure de la tournée.
Trop bien. Alors, quand tu le dis comme ça, ça a l'air d'une simplicité biblique. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu le jour 1 Déjà, j'avais une question qui était avec quel produit vous avez démarré en fait. Quel était un peu, tu vois, j'imagine que vous avez fait une petite recherche utilisateur. Quels étaient un peu les produits clés qu'il vous fallait absolument pour démarrer. Et puis ensuite, voilà, comment est-ce que vous êtes lancé.
Ouais. Dans la tête de beaucoup de gens, la consigne, c'est vraiment les boissons d'abord. Donc, c'est ce qui parle beaucoup. C'est aussi ce qui n'a jamais disparu dans les bars et les restaurants. Puisque quand vous commandez un coca en terrasse, c'est souvent dans des bouteilles en verre consigné. Donc on s'est tout de suite dit que les boissons, c'était le plus simple. C'est quelque chose de récurrent. Surtout les familles consomment, notamment pour le lait. Donc ça a été vraiment le lait et les boissons qu'on a lancé en premier. Ce qu'on a fait, c'est que... Enfin, ça paraît assez bête comme ça, mais on a loué un garde-meuble. On est allé acheter des boissons consignées chez Metro. On avait notre petit garde-meuble avec nos petites allées de caisses de boissons consignées. Et on a loué une camionnette sur Gatorade, une camionnette électrique. Mon associé Camille a sorti un site en un temps record. Et on a commencé à faire nos tournées tous les deux, en fait, de boissons consignées. Donc le week-end, on était sur les marchés pour pitcher le projet aux passants. Et la semaine, on était dans notre camionnette à livrer nos boissons consignées. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et en fait, en parlant, ce qui était assez incroyable, c'est que du coup, on a pu parler à tous nos premiers clients. Donc, on a vraiment co-construit le projet avec eux. Et en fait, en leur parlant, on s'est vite rendu compte que si on faisait que des boissons, on allait rester complètement accessoire finalement, et que ça allait limite devenir une contrainte pour eux, parce qu'il leur faut un canal d'achat pour leurs boissons, un canal d'achat pour leurs produits frais, pour leurs produits d'entretien, bref, c'est pas viable en fait. Et donc rapidement on s'est rendu compte que si on voulait avoir un vrai impact, il fallait qu'on puisse couvrir tous les essentiels du quotidien. Donc c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se lancer sur les produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien.
Ok. On y reviendra après. Je reviens du coup sur la partie contenant en eux-mêmes. Donc du coup le jour 1 il est assez clair. Donc moi en étant cliente, tu vois, le lait ça me parle vraiment, parce que moi sachez que c'était vraiment mon gros nœud, parce que bah, ça fait longtemps que je consomme plus d'eau en bouteille, je suis assez peu consommatrice de jus de fruits, etc. Mais par contre le lait, dans ma famille on en consomme pas mal, et donc ça restait mon truc qui me rendait ouf, toutes les bouteilles de lait que je jetais toutes les semaines. Et donc justement, le lait fait partie des produits que je commande à chaque fois, et je vois, en tout cas pour celui que moi je reçois, qu'il est vraiment brandé la tournée, quoi. Du coup, ma question derrière, c'est ça veut dire quoi ? Vous avez, vous, votre propre flotte de contenants ? Quel est votre deal avec le producteur ? Enfin, tu vois, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça veut dire que vous aidez certains producteurs à passer à la consigne ? Si tu peux, voilà, nous détailler un petit peu ça.
Ouais. Nous, on s'est lancé en se disant que donc on est un distributeur, et que dans un monde idéal, on achète des produits qui sont déjà consignés à des fournisseurs. On récupère évidemment les contenants vides, et ensuite c'est le fournisseur qui récupère ces contenants quand il nous livre, et c'est lui-même qui s'occupe du lavage et du réemploi. Donc ça, c'est vraiment le modèle cible. Ensuite, il y a la réalité qui est que, en fait, pour qu'on puisse avoir tous les essentiels du quotidien, il faut qu'on remonte la chaîne nous-mêmes et qu'on aide des producteurs à passer à la consigne. Sinon, en fait, il y aurait plein de produits qu'on pourrait pas avoir, tout simplement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé notre marque propre. Et donc, ce lait fait partie de cette initiative où, effectivement, on est propriétaire des contenants. Donc, le modèle change par rapport au premier modèle dont j'ai parlé. On est propriétaire des contenants. Et donc, nos partenaires vont conditionner pour nous. Donc, que ce soit pour le lait, mais aussi, on le fait aussi pour des produits d'épicerie, sucrés, salés. Donc, les contenants sont à nous. On les envoie chez le producteur. Lui, il les remplit. Ensuite, il nous les renvoie. Ça passe ensuite dans une usine de lavage qui renvoie les contenants au producteur ou au conditionneur. Donc, on a recréé une sorte de boucle de réemploi au niveau local, pour pouvoir distribuer des produits qui n'existeraient pas sinon en consigne.
Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, vous êtes présent dans plusieurs départements d'Île-de-France, mais donc si demain vous voulez vous déployer par exemple à Lyon ou quelle que soit l'autre agglomération française ou même internationale, il faudrait à ce moment-là... j'ai compris la vision cible, mais en tout cas... en attendant qu'il y ait davantage de producteurs dans tous les domaines des produits du quotidien qui développent des offres de consigne, ça veut dire qu'il faut à chaque fois trouver un partenaire local, finalement, qui accepte de fonctionner comme ça.
Ouais. En fait, on a vraiment, on va dire, trois types de produits. On a les produits locaux, on a des produits de marque, et on a des produits en marque propre qui ne sont pas forcément locaux. Donc, sur tout ce qui est épicerie, sucrée et salée, c'est vraiment France, mais pas au niveau régional. Donc, si demain, on se lance dans une autre région, on n'a pas besoin de tout reconstruire, la partie marque et la partie... marque, on va dire, industrielle, et la partie marque propre d'épicerie, par exemple, ça, c'est au niveau national. En revanche, il y a une partie de nos produits, donc notamment sur le lait frais, où on devra, justement, trouver des nouveaux producteurs au niveau local. Ouais.
Ok. Et pour ces producteurs-là, du coup, quelle que soit leur catégorie d'ailleurs, épicerie sucrée-salée ou frais de l'autre, quels sont les avantages pour eux ? Comment est-ce qu'ils vous ont reçu avec ce projet-là ?
Ouais. Au tout début, en fait, on a vraiment contacté vraiment énormément de producteurs, mais de tous les... on va dire de tous les types, donc petits producteurs, PME et gros groupes industriels. Globalement, au début, Le plus dur, c'était le début. Mais une fois qu'on en a convaincu un certain nombre, il y a un espèce de j'allais dire, pas de prophétie, mais de cercle vertueux, un peu autoréalisateur, qui fait que on dit à des producteurs, ah bah tiens, sur ce même produit, vous avez tel acteur qui est passé à la consigne. Et du coup, ça pousse les autres acteurs à s'y mettre. Il y a vraiment un côté vertueux. Et ce qu'on propose, nous, c'est quand même un débouché où on massifie en fait la collecte de contenants. Donc, c'est travailler avec nous, ça permet d'avoir tous ces contenants collectés à un même endroit. Alors que si vous travaillez avec des supermarchés ou des épiceries, vous, en tant que producteur, vous devez aller chercher à chaque endroit les contenants vides. Alors que nous, c'est nous qui nous occupons de ça. Donc, il y a un vrai avantage aussi à travailler avec nous. Donc voilà. Et le plus facile à convaincre, c'est déjà des acteurs qui travaillent avec le verre perdu, puisqu'en fait, ils n'ont pas à changer leur ligne de production. Le plus gros changement, en général, c'est juste de changer l'étiquette pour qu'elle soit hydrosoluble et qu'elle parte au lavage. Donc, pour ces acteurs-là, on a commencé évidemment avec eux, puisque c'est le plus simple.
Ok. Que tu parles de verre perdu, c'est du verre à usage unique, du coup.
Ouais, exactement.
Ok, super intéressant. Et alors, si on revient un petit peu sur votre parcours, est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu des obstacles que vous n'aviez pas du tout anticipés et inversement, peut-être des choses qui ont été plus faciles que prévues ?
Ouais, je pense qu'on s'est lancé vraiment de manière assez naïve parce que ni moi ni mon associé n'avions vraiment d'expérience en logistique pure. Et donc je pense que cette naïveté nous a énormément servi en fait, puisqu'on a on a pris le modèle de zéro, on a vraiment tout réévalué sur comment un modèle de livraison à domicile peut devenir rentable. Là, donc vraiment que avec du bon sens et des calculs simples, là où finalement avec le quick commerce, on s'était un peu perdu sur quels sont les fondamentaux d'un modèle économique. Donc nous, vraiment, on a pris le sujet de manière avec beaucoup de recul et de naïveté. Donc je pense que ça nous a beaucoup servi. Là où, du coup, il y a eu des obstacles qu'on n'avait pas vraiment appréhendés, c'est vraiment la partie de gestion humaine dans les entrepôts, puisque donc on a nos propres... nos livreurs sont salariés, nos préparateurs de commandes sont salariés. Et c'est de la gestion humaine qui est difficile parce que c'est des problématiques auxquelles on n'avait jamais fait face. Des problématiques disciplinaires, des problématiques parfois d'absentéisme, enfin des choses auxquelles on s'attendait pas du tout en fait, mais qui est tout à fait, on va dire, normal parce que c'est un métier qui est difficile et donc il y a rien d'anormal à ça, mais juste on l'avait pas appréhendé quoi. Donc ça c'est hyper difficile quand on n'a pas l'habitude entre guillemets de gérer les problématiques.
Okay, donc votre naïveté, comme tu dis, en tout cas votre manque d'expérience, enfin je ne dis pas de façon négative, mais dans la logistique, a été un avantage sur le fait que ça vous a pas, vous avez repris les choses de zéro et vous avez aussi pas flippé du truc parce qu'en général les pros de la logistique sont archi angoissés de la reverse logistique et donc voilà. Mais en même temps, du coup, là où eux auraient eu l'habitude justement sur ces problématiques RH, vous les avez découvertes quoi, sur la difficulté finalement de fidéliser des salariés, alors même qu'ils sont salariés chez vous, ce qui n'est pas forcément la classique dans la logistique. Mais
Ouais, non, c'est sûr. Donc ça a été compliqué et donc on a fait des erreurs, je pense, comme tout le monde. Mais c'est là où on a le plus appris, je pense, parce que vraiment, c'est le plus dur dans ce métier, c'est vraiment la gestion humaine en entrepôt, quoi.
Et pour la partie livraison au client ou aussi pour la partie contenant, réemploi des contenants ? Cette partie-là, elle est plus simple.
Non, cette partie-là, elle est plus simple. Là où, du coup, il y a eu des choses qui ont été plus faciles que prévues, c'est plus pour la partie, on va dire, assortiment, où au début, on nous disait, non, mais la consigne, en fait, c'est une certitude qu'on va y passer, mais si ça se trouve, ce sera dans 10 ans, quoi. Et nous, on a un peu refusé ce constat de se dire, on va attendre que les industriels soient prêts dans 10 ans. On s'est vraiment dit qu'il y avait, en montrant que les consommateurs sont prêts et ont adopté la consigne, on va pouvoir convaincre des marques et des acteurs à passer à la consigne. Et donc, moi, évidemment, j'y croyais, mais je pensais pas que ça irait aussi vite. Donc là, on a quand même beaucoup de produits à notre assortiment. On a des marques aussi, on a Lustucru, Michel Augustin. Et en fait, ça, c'est ouais, plus facile ou en tout cas plus rapide que ce qu'on avait prévu.
Est-ce qu'il y a des verticales qui sont plus dures que d'autres? Est-ce que tu sens certains qui sont à fond sur le truc en se disant, enfin, à fond, personne n'est 100% à fond, mais tu vois, est-ce qu'il y a en gros des verticales où la plupart des acteurs, en fait, tu sens qu'ils y vont et en fait, même, il y a des contraintes peut-être économiques. Enfin, tu vois, je pense qu'on a beaucoup parlé, il y a juste après le Covid, au début de la guerre en Ukraine, de l'explosion du coût du verre, et notamment pour l'impact que ça a eu pour les producteurs de vin, enfin, tous les gens qui utilisaient des bouteilles en verre. Et est-ce qu'il y a au contraire d'autres verticales où les gars tu les sens à milieu de se dire on va se lancer dans la consigne quoi.
Ouais, c'est intéressant. Je sais pas si bon, enfin la boisson c'est sûr qu'il y a un gros dynamisme et qu'il y a pas de sujet. L'épicerie aussi parce qu'il y a moins de contraintes de conservation tout simplement. Le frais, je dirais que c'est quand même le plus difficile même si on a des projets qui avancent parce qu'il y a des contraintes évidemment de conservation des produits dans des bocaux. Donc, je vois pas une verticale où il y a plus de dynamisme que d'autres dans l'alimentaire, en tout cas. Les boissons, c'est vraiment à part.
Ouais, ok. Ok, donc je reviens un peu en arrière. Tu nous as parlé des débuts sur les marchés, à échanger avec les consommateurs finaux, enfin, vos premiers consommateurs, vos early adopteurs. Aujourd'hui, que vous êtes... plus gros, vous avez plus de clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos clients, justement? Qu'est-ce qui fait qu'ils passent à la tournée? À l'inverse, quels sont les freins les plus communs pour ceux qui sautent pas le pas?
Ouais, donc nos clients, on a à peu près 70% de familles. Donc, on a vraiment une grosse clientèle familiale. Le reste, ça va être soit plutôt des retraités, soit plutôt plus jeunes, entre 20 et 30 ans, quoi. C'est à peu près réparti de façon égale. Donc le driver numéro un, c'est vraiment la réduction des déchets. Donc le fait de passer à la tournée et de pouvoir réduire la taille de ses poubelles chaque semaine. Et ensuite, il y a d'autres drivers d'achat. Il y a vraiment, surtout en grande couronne, la praticité de la livraison à domicile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Que les autres options, ça va être des services de livraison, des Carrefour & Co, mais qu'au final, le minimum de commande, il est à 100 € et que c'est une galère et qu'en plus, on se retrouve avec énormément de plastique. Donc, il y en a au final qui sont retrouvés à commander sur la tournée sans forcément que ce soit pour la consigne. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais c'est l'aspect santé, en fait, pour les familles, parce qu'il y a de plus en plus d'études sur les microplastiques et l'impact sur la santé, et donc ils veulent pas que leurs enfants consomment des produits dans des emballages à usage unique en plastique. Donc ça, c'est un autre driver. Et il y a aussi le driver de la qualité des produits aussi, puisque sur beaucoup de catégories, on a des bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Les freins, ça va être encore une fois, enfin le pendant de ça, c'est que sur certains produits on est plus cher qu'en supermarché, donc le prix peut être un frein aujourd'hui pour certains clients. Donc effectivement aujourd'hui on peut s'adresser en termes de CSP aux 70% des Français qui peuvent se le permettre, entre guillemets, qui sont pas au centime près à la fin du mois, malheureusement. Donc ça, c'est aussi parce que c'est le début. Demain, nous, on veut vraiment être accessible à tout le monde, donc être vraiment mass market. On veut pas être un service de niche, entre guillemets, pour écolo bobo, et ça, c'est vraiment ce qui nous guide depuis le début. Donc voilà, on arrive à être de plus en plus compétitif sur certains produits, et surtout en marque propre. Donc c'est aussi super intéressant, la marque propre, pour ça, parce qu'on est vraiment équivalent au prix des supermarchés sur ces produits-là. Là où on est plus cher, c'est sur les marques, on va dire nationales, les marques bien connues, Coca, Evian, etc. Là, on va forcément être un peu plus cher qu'en supermarché parce que, en fait, on compare des choses qui sont pas comparables. On va comparer une bouteille de Coca en plastique à une bouteille en Coca en verre consigné. De fait, le matériau est plus cher en verre. Donc c'est plus cher. Et aussi, on n'a pas encore les mêmes conditions d'achat que Carrefour.
Forcément, ouais, vous n'avez pas le même pouvoir de négociation, ouais. Voilà. Après, sur l'exemple du Coca, c'est très personnel, mais moi, je sais que je ne buvais plus du tout de Coca chez moi depuis très longtemps. Mais le Coca en bouteille de verre, c'est tellement un plaisir que depuis que je suis à la tournée, j'avoue que je me suis remise à en avoir à la maison. je trouve que ça n'a pas du tout le même goût, en fait. C'est un truc de malade, comme c'est... Même dans la consommation du produit, au-delà du fait que le contenant, effectivement, de fait, est plus cher. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose, en fait, au final, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des... C'est le guilty pleasure qui est revenu à la maison avec la tournée, quoi. Mais sinon, non, sur le côté positif, c'est vraiment le... Ce que tu disais, moi, ce que je trouve génial, c'est que vous avez un assortiment, effectivement, de produits qui est quand même vraiment quali. Parce que je comprends la vision qui est de dire on ne veut pas s'enfermer dans un service d'écolo-bobo, ça c'est sûr. De fait, la plupart des marques que vous proposez sont quand même globalement bio, globalement plutôt des marques assez responsables. Et ça, c'est quand même super chouette. Quand, comme nous, on a des enfants, enfin, tu vois, on fait attention à ce qu'on leur fait manger et ce qu'on leur fait ingérer.
Notre volonté, c'est vraiment de valoriser le local et le bio. Mais on veut aussi avoir des équivalents conventionnels et accessibles en prix pour que tout le monde puisse trouver son compte, en fait.
Ouais, je comprends, tu vois. Et c'est, de toute façon, c'est essentiel. Enfin, si tu veux te généraliser, il y a un moment où l'accessibilité, elle est hyper importante, quoi.
Ouais.
Donc, ok, cool. Donc, on a parlé des clients, un peu des fournisseurs. Mais je creuserais bien un peu cette partie fournisseurs. Donc, tu disais, vous avez trois catégories de fournisseurs, finalement. Quels sont un peu vos projets, vos enjeux dans les mois et années à venir? Est-ce que c'est de travailler aussi avec toutes les grandes marques nationales? Tu en as mentionné quelques-unes, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres avec lesquelles vous ne travaillez pas encore. Comment se passe un peu le business développement côté catalogue, quoi?
Ouais. On se concentre sur plusieurs priorités. Effectivement, les marques en font partie, donc on est vraiment en discussion avec pratiquement tous les industriels pour avoir leurs produits en consigné. Donc à la fois des produits frais ou des produits non frais. Et ça, en fait, le fait que on conditionne, donc on est des partenaires pour conditionner, que ce soit du frais ou du non frais, ça facilite quand même pas mal la vie pour les acteurs qui veulent passer à la consigne. Donc ça nous permet d'avoir là des projets de sortie de nouvelles marques là dans les mois à venir et de continuer à nourrir entre guillemets ce pipe pour l'avenir. On a aussi un gros projet de développement de notre marque propre, parce qu'encore une fois, c'est là où en termes d'accessibilité prix, on est bien positionné et même aussi en marge pour nous. Donc c'est un gros sujet aussi de développer la marque propre et aussi les produits locaux dès qu'on peut. En termes de type de produit, il y a encore plein d'unités de besoin qu'on ne couvre pas. Donc notre priorité avant de... En gros, il y a deux axes de développement de l'assortiment. C'est soit on couvre des nouvelles unités de besoin qu'on ne couvrait pas, soit on va venir compléter les unités de besoin qu'on couvre avec plus de choix. Là, aujourd'hui, on veut vraiment plutôt la première, donc couvrir des nouvelles unités de besoin qu'on ne couvre pas. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de projets parce qu'en fait, quand on prend notre client, donc les familles, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne leur propose pas. Tout ce qui est autour des bébés, donc les petits pots, les couches, etc. Parce que oui, on ne veut pas faire juste des bocaux et des bouteilles, mais on veut aussi faire les consommables du quotidien, donc papier toilette, couches, etc., mais sans plastique. Ça, c'est vraiment notre ligne directrice. Il y a aussi beaucoup de choses dans tout ce qui est ce que les gens consomment au quotidien en frais, donc les pâtes fraîches, enfin vraiment tout ce qu'aujourd'hui les gens achètent en supermarché, tout ce qui est cuisine du monde. Enfin, en fait, il y a pas mal de projets là pour couvrir des nouveaux produits, en fait.
Ok. Oui, parce que finalement, je pense que, j'allais dire, j'ai vu sortir la vieille de la vieille, mais tout ce qui est entretien, ça c'est maintenant, vous avez pas mal de choses, mais c'est assez récent, si je me trompe pas. Enfin,
complètement.
Comme moi, j'ai commencé à commander, je crois qu'il n'y avait pas. Donc, effectivement...
On a beaucoup de demandes de nos clients sur les produits d'entretien. Et en fait, on regarde beaucoup... Enfin, on a beaucoup de clients qui nous envoient des mails avec leurs suggestions, donc ça nous aide aussi à mettre la bonne priorité au bon endroit.
Ouais. Non, mais c'est assez compréhensible parce qu'au final, c'est ce que tu disais au tout début, c'est que en tant que client, t'as beau être engagé, te dire je veux réduire mes déchets, etc. Enfin, quel que soit le driver de tes clients, y a un moment où avoir 1000 canaux de sourcing de tes courses, c'est quand même un peu compliqué.
Ah ouais.
Donc, plus tu peux commander tout au même endroit, plus c'est pratique, quoi.
Ouais, aujourd'hui, okay. Il y a juste des produits qu'on dépriorise, c'est tout ce qui est viande, poisson et aussi produits hyper transformés pour des raisons différentes, mais la viande et le poisson, c'est un métier différent. Et nous, notre ambition, c'est pas non plus de... Enfin, nous, on veut remplacer les courses au supermarché avec vraiment les produits essentiels bruts. Nos clients vont continuer à aller chez leur boucher ou poissonnier pour ce type de produit-là.
Oui, ça, je te rejoins complètement. Je pense que... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Mon ambition, c'est de plus aller au supermarché, tu vois. Donc, effectivement, les petits commerçants de quartier, c'est aussi un plaisir. Et puis, c'est pas forcément eux qui génèrent le plus de déchets, en fait. Enfin, si le driver de base, c'est ça, plus le fait de consommer bon, local, etc. Je pense que votre... Enfin, je vais pas parler d'ennemis non plus, parce que faut pas se mettre à dos. Voilà, mais en tout cas, votre concurrent, l'alternative de consommation, c'est vraiment le supermarché, quoi.
C'est le supermarché, oui.
Ouais, ok, super intéressant. Est-ce que on peut se parler peut-être de géographie aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous redire où est-ce que vous êtes présent et est-ce que c'est un enjeu pour vous de développement? Est-ce que pour l'instant vous voulez vous concentrer sur l'Île-de-France? Est-ce qu'il y a des enjeux de développement ailleurs?
Donc là, on est dans pratiquement 250 villes en Île-de-France. On a progressivement étendu des Yvelines à là aujourd'hui l'est de l'Île-de-France et on est aussi rentré en petite couronne et dans Paris. Donc ça a été une couverture progressive et on s'est étendu en fait grâce à nos préinscrits. Donc quand vous n'êtes pas livrable, vous pouvez rentrer votre code postal et votre adresse mail sur notre site. Et nous, derrière, on a une base de préinscrits qui nous aide aussi à prioriser les villes où on se lance. Donc ça a été vraiment super utile pour nous, faire un élargissement géographique qui fasse du sens. Donc notre gros projet, c'est vraiment d'aller mailler l'Île-de-France et d'être dans le plus de foyers possible en Île-de-France. Donc, on n'a pas fini. Donc là, on a lancé début janvier les arrondissements périphériques de Paris. Pourquoi les arrondissements périphériques? D'abord, parce que vraiment, on fait petit à petit, on teste et on voit à chaque fois s'il y a des adaptations à amener au modèle opérationnel ou pas. Et si, finalement, les clients parisiens ont les mêmes habitudes que les clients en petite couronne et en grande couronne. Donc, ça a été vraiment le cas sur les arrondissements périphériques. On a eu les mêmes... entre guillemets, on met plus de temps à livrer parce que c'est des immeubles, mais en fait, comme c'est plus dense, on met moins de temps en transport entre deux clients et donc finalement, on s'y retrouve.
Ok.
Et donc, une fois qu'on a testé là, on continue avec l'ouverture de 3 nouveaux arrondissements la semaine dernière, donc le 7e, le 8e et le 11e. Là où on avait aussi beaucoup de demandes. Le 11e, c'est un arrondissement qui est très familial avec beaucoup de demandes pour des services éco-responsables comme les nôtres. Donc ça, c'est vraiment notre priorité. On ne va pas couvrir tout Paris. A priori, le cœur de Paris, 1, 2, 3, 4, c'est vraiment pas là où il y a notre persona, qui sont des familles, et c'est aussi très compliqué à livrer. Donc, on va continuer à s'étendre, mais sans forcément couvrir vraiment toutes les villes en Île-de-France et tous les arrondissements. Donc, c'est vraiment notre priorité. Et en fait, il y a pratiquement 12 millions de personnes en Île-de-France. Donc, il y a de quoi faire.
Ouais.
Donc, pour l'instant, c'est vraiment ce sur quoi on se concentre.
Ok. Et comment se passe d'ailleurs le marketing, entre guillemets? Est-ce que c'est très bouche à oreille? Donc, tu as parlé des sujets de préinscription. Comment est-ce que vous faites connaître, en fait?
Ouais, il y a une grosse partie qui est en bouche à oreille, effectivement. Bouche à oreille et parrainage. Puisqu'on a un système de parrainage... vous pouvez bénéficier de 20 euros sur votre première commande. Donc c'est une grosse part de notre acquisition. C'est aussi un service que les gens sont finalement assez fiers de recommander. que ce soit à leurs proches ou à leurs voisins. Vraiment, on voit que le bouche à oreille, il est partout. Dans les groupes WhatsApp de parents, les groupes WhatsApp de résidence. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qu'on découvre. On ne connaissait pas l'existence de ce type de groupe WhatsApp. Mais ça marche très, très bien. En bouche à oreille. Ensuite, on fait de l'acquisition en ligne aussi, donc principalement sur Facebook et Instagram. Donc ça, c'est un gros canal aussi pour nous. Et ensuite, on a un canal qui est aujourd'hui un peu plus petit, mais qui est super intéressant pour nous, c'est ce qu'on appelle l'offline. Donc en fait, on va, c'est ce par quoi on a commencé d'ailleurs, donc il y a aussi un attachement historique, c'est on va aller sur les marchés, on va avoir un petit stand d'exposition avec nos produits et on va convertir les passants au fil de l'eau. Donc soit on vend direct, donc ils vont directement commander avec nous sur un iPad, faire leur première commande, soit on va leur vendre un petit bocal de la première commande avec un code promo qu'ils vont pouvoir activer chez eux. Et ça, ça permet d'avoir des clients, donc une cible qui va au marché et qui n'est pas forcément sur Instagram ou Facebook. Et c'est hyper important pour nous parce que c'est aussi une cible familiale et qui va rester surtout avec nous dans le temps. Donc, hyper important pour nous. Et on fait aussi des événements, ce qu'on appelle le bocal truck. Donc, on a nos camionnettes et on va participer à des événements en plein air. Ça peut être un salon du développement durable, un cinéma en plein air, une fête de la nature, enfin vraiment plein d'événements dans les villes dans lesquelles on est. Et donc, on va avoir ce bocal truck où on propose à la vente des boissons et des snacks. Et ça permet pour les gens de faire un premier pas vers la consigne sans vraiment s'en rendre compte. Puisque derrière, évidemment, on récupère leurs bouteilles ou leurs bocals. Et ça, c'est de la pure notoriété, hein. On fait pas de l'acquisition avec ça. Mais ça permet aussi de mettre la petite graine de la consigne dans la tête des gens. Et sur le long terme, c'est hyper utile.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas un pays très acculturé à la consigne. Moi, j'avais fait un échange universitaire en Allemagne, où pour le coup, dans tous les... Et ça, il y a longtemps, maintenant, il y a 15 ans, même plus. Et je me souviens que tous les événements, même étudiants, enfin, tu vois, c'était juste la base, quoi. Tous les contenants, ils étaient consignés. Enfin, c'était... Et personne ne se posait la question. Tu prenais ta bière au bar d'une fête étudiante, elle était majorée de 1 ou 2 euros, je ne sais plus, à l'époque. Et derrière, tu le ramenais, tu récupérais ta consigne. Et genre, c'était normal, en fait. Personne ne se posait la question.
Ouais, c'est vraiment une habitude, quoi.
Et du coup, c'était assez rigolo parce que tu voyais, en fait, pas mal de... tous les étudiants, c'était, voilà, évidemment, c'était un Erasmus, donc il y avait tous les pays, et donc tu avais les Allemands, enfin, ceux qui étaient habitués, qui géraient bien le truc, et les autres qui étaient genre, enfin, qui oubliaient, qui les rapportaient pas, et du coup, c'était le grand jeu de certains étudiants de récupérer en fin de soirée tous les contenants et d'aller se faire 40 euros de consigne, mais.
Ouais. Non, mais on les a beaucoup challengés au début de la tournée sur est-ce que la consigne, c'est culturel? Et c'était assez intéressant en disant, bon ben voilà, en Allemagne, ils le font parce que la consigne s'est généralisée. Au Royaume-Uni, ils le font parce qu'ils ont la culture du lait frais et du milkman, et donc pour eux, voilà. Et en France, on n'a pas cette culture. Mais en fait, dans les faits, pour nous, c'est pas une question de culture, c'est une question d'habitude et d'offre en face. Est-ce qu'on a le moyen en tant que consommateur de le faire? Aujourd'hui, la réponse était non. Ouais, c'est 50 dernières années, quoi. Donc c'est plus qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire plutôt que c'était pas dans nos mœurs. Et en fait, quand on parle de consignes aujourd'hui, bah, les gens connaissent parce que ça existait avant et beaucoup nous ont dit dès le début, mais en fait, on comprend pas pourquoi ça a disparu. Donc je pense que c'est pas un aspect culturel, c'est plus que il y avait plus la possibilité, donc les gens ont arrêté de le faire, quoi.
Oui, c'est ça. C'est effectivement une vraie question de... Enfin, si, j'imagine que si ça a disparu, c'est qu'à un moment donné, c'était plus rentable de produire en masse dans des contenants en plastique et que voilà. Mais oui, je te rejoins. Je voulais pas dire que c'était impossible pour un Français, mais en tout cas, de fait, à l'époque où, tu vois, moi, j'avais pas du tout cette sensibilité environnementale aujourd'hui, où je me dis juste, c'est la base et il faut qu'on fasse tout ça. Je me souviens d'avoir été surprise que pas tellement en fait dans la vie de tous les jours, parce que ça je trouve ça génial en fait, voilà, mais que même, tu vois, ça se déporte carrément même dans les soirées étudiantes, tu te dis c'est un peu le summum de l'irresponsabilité, tu vois, voilà, que en fait c'était partout, quoi, c'est ce concept du contenant consigné où tu le rapportes à la fin, ou dans les marchés de Noël qui là-bas sont pas des trucs commerciaux mais tu vois des vrais moments culturels où les gens se retrouvent, on te sert dans une mug consignée en fait, que d'ailleurs tu peux l'acheter derrière, mais en tout cas ou la garder, mais y a pas de gobelet en plastique ou de gobelet en carton, quoi. Bref, voilà, c'était la petite aparté culturelle. Écoute, moi j'ai bien fait le tour des...
On voit quand même, pardon, en France que c'est quand même en train de revenir, tu vois, même dans les événements, il y a quand même de plus en plus, enfin de moins en moins de gobelets en plastique, de plus en plus de verres consignés, quoi. Donc, je pense que c'est que le début.
T'en as, mais je trouve que t'as encore beaucoup d'éco-cups, tu vois, le truc qui te déculpabilise, entre guillemets, mais sauf qu'en fait, des éco-cups, au bout d'un moment, t'en as des millions, et en fait, voilà, c'est moins pire, entre guillemets, que le gobelet en plastique à usage unique. Ça, c'est vrai que je pense que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais au final, je pense que la next step, c'est effectivement carrément le contenant consigné. Mais bon, ça va clairement venir. Hein.
Oui.
Écoute, on a fait un bon tour des sujets que moi, en tout cas, je voulais aborder. Je ne sais pas s'il y a des points qu'on n'a pas évoqués que tu aurais bien aimé mettre en avant.
Non, je pense que c'est bon pour moi.
Trop bien. Du coup, si ça te va, je te pose ma petite question culturelle aussi, finalement, que je pose toujours en fin d'entretien. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment ou un podcast que tu écoutes régulièrement qui t'inspire particulièrement, que tu as envie de partager?
Je réfléchis.
Ça peut être un livre de fiction, hein. Tu sais, c'est pas obligé d'être un livre de management anglais super chic.
Non, mais pour le coup, non, mais en termes de livre anglais super chic de Sheryl Sandberg, Lean-In, que j'ai lu récemment, et j'avais eu beaucoup d'a priori négatifs sur le fait que c'est un peu. Enfin, il y a une partie des féministes qui pourraient dire que ça pousse la femme à prendre un comportement d'homme au sein de l'entreprise, aucune faille, etc. Mais en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de comprendre un peu ce qui retient les femmes dans leur niveau d'ambition. Et elle est complètement déculpabilisante en disant, en fait, le fait de vouloir diriger une entreprise, évidemment que c'est pas un but en soi et qu'on ne devrait pas l'imposer à toutes les femmes de se dire c'est votre ambition et si vous n'avez pas cette ambition, vous êtes...
C'est OK.
Ouais. Mais en gros, elle déculpabilise beaucoup là-dessus. Mais par contre, si c'est notre ambition, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'elle analyse un peu tous les facteurs qui peuvent nous retenir, psychologiques, mais aussi concrètement sociétaux. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et aussi, elle donne pas mal de conseils sur... comment essayer de se dire qu'on est à la bonne place parce que souvent il y a un côté légitimité ou doute sur le fait que qu'on soit à la bonne place en tant qu'entrepreneur, surtout quand on commence à avoir une grosse équipe. Et en fait, elle aide beaucoup à se dire non, en fait, vous êtes à la bonne place et voilà comment vous sentir bien dans votre rôle de leadership, entre guillemets.
Voilà. Je l'ai lu il y a longtemps, ce livre, et je me souviens qu'il m'avait aussi beaucoup marqué. Et j'avais beaucoup aimé elle fait quand même effectivement beaucoup référence à des études sociétales qui en fait lèvent. Alors en fait, moi je pense que je l'ai lu il y a une dizaine d'années, tu vois, donc ces sujets, on en parlait déjà évidemment, mais j'ai l'impression que maintenant les sujets féministes, c'est un peu le truc dont on parle tout le temps. Mais il y avait des choses ce qui m'avait plu, en fait, c'est qu'il y avait un côté où, en fait, ça lève le débat, tu vois, juste, t'as les études qui sont faites, qui te montrent que, une femme dans une situation de pouvoir, voici les mots utilisés par les gens pour la décrire versus un homme, etc., enfin, et que du coup, c'était très, factuel. Mm-hmm. Et en effet, aussi assez déculpabilisant. Et le fait qu'elle soit, moi, à l'époque, ça m'avait parlé, c'était avant que j'aie mes enfants, mais je trouve qu'elle mettait bien en lumière le fait qu'elle est aussi mère et pourtant une femme à un super haut niveau, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'elle était déjà chez Facebook, ou en tout cas, elle avait déjà sa carrière qu'on connaît. C'était pas le tout ou rien, en fait. Le côté, soit t'es une femme de carrière, soit t'es une maman, mais le côté, finalement, t'as le droit d'être les deux, et c'est effectivement, le mot déculpabilisant est vraiment juste sur ce livre.
Ouais, non, c'est vrai que sur cette partie aussi, c'était super intéressant et comment avoir le bon environnement pour que ça fonctionne aussi, quoi. D'avoir des enfants et une entreprise à gérer.
Oui, c'est vrai qu'elle a toute une partie aussi. Je me souviens, il y a un chapitre sur, en gros, choisir le bon mari, quoi.
Ouais, exactement.
C'est un truc qui était assez marrant. Enfin, je trouve que d'un point de vue, je sais pas si une autrice française l'aurait dit comme ça, mais en tout cas, du coup, ça avait l'avantage d'être archi direct et carré, quoi. Et c'est assez rigolo. Non, mais j'aime bien que tu... J'aime bien que tu conseilles ce livre, ça me donne envie de le relire. Trop bien. Et ben, en plus, c'est assez rigolo que tu partages risque qu'on enregistre le 8 mars, qui est quand même la journée de la femme. Donc, voilà, tu vois, la boucle est bouclée avec ce conseil. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci. Et d'avoir créé la tournée en Île-de-France, parce que vraiment, ça me plaît au quotidien. Et puis, je te dis à bientôt, du coup. Bonne journée de la femme et à bientôt.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives canon, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.